L'Hebdo Région, Thomas Cochebret sur RCF et Radio Fidélité.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. L'actu de cette semaine a été dominée par le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi. Vous entendrez le témoignage d'un Vendéen responsable de l'œuvre d'Orient au Liban. Il est parti pour la Syrie avec un camion et des milliers de couvertures. Il témoignera de la situation sur place. Rencontre ensuite avec la rectrice de l'Académie de Nantes, notre académie qui est de plus en plus confrontée à la baisse du nombre d'élèves, ce qui sera encore le cas pour l'année prochaine. Et puis rencontre également avec Lily Laigniel. Elle est âgée maintenant de 91 ans. Elle témoigne encore de la déportation qu'elle a subie à l'âge de 11 ans dans les camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. Avec sa mère et ses deux petits frères. Elle était invitée cette semaine par le Mémorial des déportés de la Mayenne. L'initiative de la semaine est économique et angevine. Une jeune entreprise de fabrication et de commercialisation de brosses à dents en bois, J'aime mes dents, a décidé de relocaliser sa fabrication en Anjou, au Plessis-Grammoire. Un de ses fondateurs nous expliquera pourquoi. Et puis enfin, découverte des canotiers du Loir, une sympathique association sartoise regroupant 5 amis épicuriens souhaitant valoriser le terroir et les producteurs locaux à travers des vidéos gourmandes sur les réseaux sociaux. Voilà donc pour le programme de cette Hebdo Région. Il vous est présenté comme chaque semaine par la rédaction de RCF Anjou, en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Et on commence tout de suite avec cette terrible actualité, le séisme en Turquie et en Syrie. Bonjour Fanny Brevet.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors depuis le séisme, Fanny, qui a frappé la Turquie et la Syrie en début de semaine et qui a causé déjà la mort de plus de 20 000 personnes, la solidarité s'organise.
Un Vendéen est arrivé à Alep en Syrie dès mardi soir. Vincent Gelot vit dans le pays voisin au Liban où il est correspondant de l'œuvre d'Orient à Beyrouth. Il est parti avec un chargement de 5200 couvertures chaudes qui ont été distribuées aux sinistrés. Vincent Gelot fait un point sur la situation.
Donc actuellement, vous avez des milliers de personnes qui sont réparties un peu partout dans la ville, qui sont venues trouver refuge dans les écoles, les centres d'accueil, les églises, les salles paroissiales. Et on est actuellement en train de leur apporter des repas chauds, des sandwichs. Les gens, globalement, sont en dehors de chez eux parce que soit leur immeuble s'est effondré, ou bien ils ne sont plus en état de rentrer chez eux parce que tout est... des pans de murs sont tombés, il y a des craquelures partout. Et malheureusement, plusieurs immeubles ont été évacués par les autorités parce qu'on craint qu'ils ne s'effondrent. Alors, en fait, toutes les structures architecturales d'Alep ont été fragilisées pendant la guerre en raison des bombardements et maintenant par le séisme. Donc les gens ont peur de rentrer chez eux, d'autant que les répliques qui ont suivi la première secousse ont été violentes et donc les gens ont vraiment peur.
Vincent Gelot parle d'une situation dramatique, qu'il l'était déjà avant dans ce pays en guerre où 96% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ce tremblement de terre vient donc affaiblir encore un peu plus la Syrie.
La Syrie reste dans un état très préoccupant. C'est un pays qui ne se reconstruit pas. Des métropoles entières restent en état de ruine parce que vous avez en Syrie ce nœud politique qui fait que les alliés du gouvernement syrien, donc l'Iran et la Russie, n'ont ni les moyens ni l'envie de reconstruire ce pays. Et de l'autre côté, l'Occident ne veut pas entendre parler de reconstruction tant que Bachar el-Assad est au pouvoir. Donc les ruines restent à l'état de ruines, ce pays ne se reconstruit pas, faute d'investissement. Et ça, c'est inacceptable parce que les Alépins vivent dans ces ruines. Voilà, les Alépins et les Syriens.
Pour venir en aide à ces Syriens, Vincent Gelot et l'œuvre d'Orient se sont fixés un double objectif, gérer l'urgence et préparer l'avenir.
On est à la fois entre l'urgence, qui est celle de pouvoir accueillir, nourrir, chauffer, donner du lait pour les enfants, pour toutes ces personnes qui sont accueillies et sans logement. Et en même temps, on songe à l'après, c'est-à-dire dans quelle mesure on va pouvoir faire une estimation, puis réparer les maisons, les appartements qui ont été détruits pour que les gens puissent sortir de cette situation d'urgence et retourner chez eux. Et puis pour les autres, ceux qui ne le pourront pas, voir comment on pourrait éventuellement... payer des loyers sur place, etc., pour qu'ils puissent se loger. Donc là, l'étendue des besoins est nettement supérieure par rapport à l'aide humanitaire apportée. Donc voilà, on fait un appel à la fois à vos auditeurs pour continuer de prier pour les Syriens, de penser à eux. Et suite à ce séisme aussi, on fait appel à leur générosité.
L'œuvre d'Orient a d'ailleurs ouvert un fonds d'urgence pour cela et elle appelle à ce que les quêtes des messes de ce week-end aillent aux victimes de ce tremblement de terre.
Merci Fanny. Et puis concernant toujours cette actualité, à Sablé-sur-Sarthe, l'association culturelle franco-turque lance un appel aux dons après donc ce séisme. Les membres de l'association ont vite contacté l'organisme public de gestion des catastrophes turques, l'AFAD, pour connaître les besoins des sinistrés sur place. Des dons financiers sont ainsi recherchés en priorité. Il est possible de les déposer, de les envoyer au siège de l'ACFTS rue des Jumeaux à Sablé. Et les sommes récoltées seront donc tout de suite versées à l'AFAD. Et puis à Angers, l'association culturelle des travailleurs turcs d'Angers et de Trélazé lance elle aussi un appel aux dons. Elle compte récupérer et envoyer du matériel de première nécessité sur place. L'association collecte donc des couvertures, des tentes, des vêtements d'hiver pour enfants et adultes ou encore des couches et des aliments pour bébés. Des dons à déposer dans un colis bien fermé à l'association culturelle turque au 65 rue Parmentier à Angers. Et notez aussi que le département de Maine-et-Loire a débloqué une aide exceptionnelle de 50 000 euros. Puis à Nantes, le centre culturel des Alévis lance lui aussi un appel aux dons pour aider les victimes. Plus au nord de Nantes, c'est à Châteaubriant. La mairie a décidé de mettre la main à la pâte pour aider l'association culturelle turque en mettant une salle municipale à disposition de la collecte. Les habitants de Châteaubriant qui peuvent tout au long du week-end se rendre à la halle de Béret pour apporter des biens qu'ils souhaitent donc envoyer là-bas. Dans le reste de l'actualité ligérienne, Amine Umlil est révoqué. Le pharmacien et responsable de la pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet l'a annoncé lui-même samedi dernier, et révoqué par le Centre national de gestion qui lui reproche, je cite, « une propagande anti-vaccinale ». Un scandale monstrueux, selon Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essonne, président de Debout la France, évoque une sanction digne d'un État autoritaire. Le docteur Amine Umlil était candidat pour le parti de droite lors des dernières élections législatives en Vendée, donc le pharmacien devrait faire appel de cette condamnation. Notre région est-elle en train d'amorcer un vieillissement dans sa population ? La question se pose alors que l'un des indicateurs tend pour la première fois à vraiment s'effondrer, c'est celui des élèves qui entrent à l'école. Bonjour Simon Marty.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors Simon, on connaît désormais les chiffres pour la rentrée scolaire de septembre 2023.
Oui, et ils ne sont pas bons, Thomas. Une baisse généralisée, particulièrement en Loire-Atlantique, qui jusque-là faisait office de locomotive. Des chiffres que surveille de près Katia Béguin, la rectrice d'académie, qui planche déjà sur cette future rentrée scolaire. Des chiffres précis qui lui permettent de faire une synthèse de la situation.
Nous avons des chiffres exacts qui montrent la part justement de la baisse démographique à proprement parler, et la part des mobilités entrantes, mais en revanche, il y a une baisse de la natalité qui n'est plus tout à fait compensée par ces arrivées.
3000 élèves de moins dans le premier degré, 476 dans le second. Pour la deuxième année consécutive, ce nombre d'élèves entrant ou poursuivant leur cursus scolaire décroche. Une donnée plutôt inhabituelle pour la rectrice d'académie.
Alors en effet, c'est une nouveauté dans cette académie où il y avait encore une progression du nombre d'élèves, enfin déjà un tassement l'année dernière. Donc cette année, l'année qui vient aussi, il y a une baisse démographique qui est importante et qui évidemment va toucher en particulier les écoles, mais aussi le niveau collège et lycée. Et ça, c'est une nouveauté, en effet.
Et Simon, est-ce que cela va avoir des conséquences ?
Oui, cette baisse du nombre d'élèves va avoir de nombreuses répercussions. Du taux de professeurs présents face aux élèves jusqu'aux fermetures de classe. En fait, Thomas, c'est un ensemble de variables qu'il va falloir désormais ajuster.
Le ratio professeur, nombre de professeurs par élève s'améliore, et s'améliore d'ailleurs dans tous les départements. Et en revanche, ça demande effectivement des ajustements, puisque nous avons des objectifs de politique publique qui doivent être respectés, en particulier sur les classes décisives que sont la grande section de maternelle, le CP et le CE1, où en éducation prioritaire, il y a les dédoublements, donc avec des classes à 12, 13, 14 à la limite, qui doivent être maintenues. Et dans les autres classes qui ne sont pas dans l'éducation prioritaire, mais qui sont aussi les grandes sections de maternelle, CP et CE1, les objectifs sont d'avoir une limitation des classes à 24 pour permettre de bonnes conditions d'entrée dans les apprentissages des fondamentaux.
Une nouvelle carte scolaire est désormais à l'étude. Sa première mouture, qui prévoit plus de fermetures de classes que d'ouvertures, fait déjà grincer serrer les dents du côté des syndicats d'enseignants. Mais pour l'heure, pour la rectrice d'académie, rien n'est gravé dans le marbre. Ce n'est qu'à la fin de l'été prochain que l'on aura une idée précise de l'organisation scolaire à l'échelle de l'académie.
Simon Marty pour Fidélité Nantes. Merci beaucoup Simon. Dans le reste de l'actualité des Pays de la Loire, la préfecture de la Sarthe indique que des mortalités massives d'oiseaux sauvages, en particulier de mouettes, ont été déclarées en plusieurs points du département. Les analyses sur les oiseaux morts ont mis en évidence la présence du virus de l'influenza aviaire dans les communes d'Arnage et de la Ferté-Bernard. La préfecture rappelle que si aucun foyer n'a été détecté depuis le 16 décembre, le risque de contamination des élevages de volailles par la faune sauvage reste très élevé. Avant de rappeler l'obligation de mise à l'abri dans un environnement fermé, la protection de l'alimentation et de l'abreuvement vis-à-vis de la faune sauvage. Les résidences secondaires ne seront pas taxées cette année. Yannick Moreau, le président de l'Association nationale des élus du littoral et maire des Sables-d'Olonne, regrette cette décision gouvernementale de repousser cette possibilité. La loi de finances 2023 prévoyait que les communes puissent augmenter la taxe d'habitation uniquement sur les résidences secondaires, mais le décret ne sera public qu'en 2024. Pour le maire des Sables-d'Olonne, c'est pourtant, je cite, « le seul levier de fiscalité locale qui reste aux communes pour financer une politique en faveur des résidents permanents. »
L'Hebdo-Région, rencontre avec.
Le mémorial des déportés de la Mayenne a invité la semaine passée un public très nombreux à venir écouter le témoignage de Lily Leignel, rescapée des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne a eu le privilège de la rencontrer pour un entretien dont elle nous propose quelques extraits. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas, vous parlez de privilège et vous faites bien. C'est effectivement toujours très émouvant de se retrouver face à quelqu'un qui a vécu l'enfer des camps. Alors pour vous resituer un petit peu le contexte, hein, réfugiés en France pour fuir les persécutions antisémites de leur pays d'origine, la Hongrie, Joseph Rosenberg et sa femme Charlotte Neckeler se sont installés en France au début des années 30. Et là, ils ont eu le temps d'avoir 3 enfants avant que les menaces ne les rattrapent. Dans un premier temps, les enfants ont été accueillis dans la famille du curé pour les cacher avant de retourner avec leurs parents, considérant alors que le danger était écarté. On devine la suite. Et le 27 octobre 1943, la famille est arrêtée. Ils apprendront plus tard que leur père a été transféré au camp de Buchenwald, où il sera fusillé quelques jours avant la libération de ce camp. La maman et les 3 enfants, Lily, Robert et André, âgés respectivement de 11 ans, 9 ans et demi et 3 ans et demi, atterrissent au camp des femmes à Ravensbrück.
Nous étions donc avec maman, mais chaque jour, elle partait à l'arbaïd très tôt le matin. Et nous, les 3 petits-enfants, restions seuls dans le camp. Nous avions toujours très peur. Pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres. Terré, c'est le mot qui convient. Nous ne commencions à revivre, à respirer que le soir, au retour de maman de l'arbeit du travail. Là, maman était exceptionnelle. C'est grâce à elle, vous savez, que nous avons tenu, que nous sommes revenus. C'était très dur. Nous crevions de faim à Ravensbrück. Nous avions très froid également, mais surtout la peur constante.
Début 45, Lily est transférée au camp de Bergen-Belsen avec sa famille, ce camp surnommé le camp de la mort lente.
À Bergen-Belsen, il y avait cette épidémie de typhus. Je me souviens qu'en arrivant, il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Nous étions tous mélangés, vivants et morts, dans une puanteur atroce.
Le 15 avril 1945, les Britanniques libèrent le camp de Bergen-Belsen. Et comme beaucoup de déportés, pendant longtemps, Lily Rosenberg n'a pas pu parler. C'était comme une chape de plomb qui était sur elle.
Et vous savez, la plupart des déportés l'ont dit, nous ne pouvions pas en parler aussitôt à notre retour. Nous étions traumatisés. Et puis ce qu'il y a de pire, c'est que si de temps en temps l'on risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Et certains déportés n'ont jamais pu en parler. En ce qui me concerne, je n'ai pas pu en parler tout de suite. C'était trop dur. Mais avec l'apparition des négationnistes, alors là, moi, il me fallait absolument expliquer ces horreurs. J'étais timide, vous savez, à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner. Peu au début, c'est pas si facile que ça de toujours témoigner, toujours se remémorer ce passé, que l'on ne peut oublier, bien sûr. Mais on voudrait faire une petite pause. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Vous savez, je suis débordée d'appels.
Comme par exemple cet appel du mémorial des déportés de Mayenne hein, qui a sollicité Lily. Alors ici, je n'ai mis que quelques extraits de son récit, mais Lily, sous le nom de ses parents, Keller Rosenberg, a écrit ses mémoires dans plusieurs livres, certains adaptés à la jeunesse. Je vous donne des titres. « Et nous sommes revenus seuls »,« Je suis encore là » et « J'avais votre âge ». Voilà de quoi compléter ce témoignage que vous venez d'entendre aujourd'hui.
Merci beaucoup Isabelle. Et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de témoins de cette sombre période. Leur témoignage est d'autant plus précieux. Et si je compte bien, Lily Lagnier a aujourd'hui 91 ans. Alors bravo à elle de sillonner ainsi le pays pour propager son message de mémoire et de paix. Dans le reste de l'actualité ligérienne, une vingtaine de radars de Loire-Atlantique sont à l'arrêt. C'est le résultat d'une opération de la CGT Mines Énergie qui continue ses actions pour protester contre la réforme des retraites. Si la sécurité routière passe par les radars, la sécurité mentale des Français passe par le retrait de cette réforme, nous explique la CGT dans son communiqué. Toujours sur le même sujet, sachez que les étudiants de la faculté de Nantes ont voté le blocage de l'université pour les prochaines journées de mobilisation contre la réforme des retraites, à savoir les mercredis 15 février et 8 mars. À Nantes, toujours depuis quelques jours, un hélicoptère de la gendarmerie survole de manière régulière le centre-ville. Il s'agit d'une reconnaissance menée en vue de la prochaine Coupe du Monde de rugby, l'occasion pour les pilotes de la gendarmerie de prendre leur repère au-dessus de la cité des Ducs de Bretagne, mais aussi d'actualiser la cartographie de Nantes à quelques mois du coup d'envoi de l'événement sportif.
L'Hebdo-Région, initiative.
Direction Angers maintenant pour parler d'une jeune entreprise qui s'appelle J'aime mes dents. Depuis 2017, elle fabrique des brosses à dents en manches de bambou et elle les propose sur abonnement. Mais malgré le côté écolo du bambou, aller le chercher de l'autre côté de la planète, faute de fabricants français, eh bien c'est pas terrible. Question bilan carbone, il faut le reconnaître. Donc l'entreprise a donc décidé de relocaliser en Anjou la production de brosses à dents au Plessis Grammoire, plus précisément. Marion Bastide a rencontré pour nous son cofondateur Alexis Godichaud.
L'idée de base en fait de J'aime mes dents, c'était de proposer une brosse à dents naturelle sous forme d'abonnement. Un produit qui n'est pas changé assez régulièrement. Les dentistes recommandent de changer 4 fois de brosse à dents à l'année. Et finalement, en France, on n'est pas des très bons élèves puisqu'on change plutôt 2 fois et demi de brosse à dents par an. Un produit qui était principalement en plastique jetable, souvent avec des manches avec plusieurs plastiques qui rendent le recyclage très compliqué. Donc voilà, l'idée de base, c'était ça, de réinventer un petit peu cet objet, du coup en proposant la brosse à dents naturelle sous forme d'abonnement. Vous commandez sur notre site 1 an de brossage de dents et nous, on s'occupe à votre place de penser à changer la brosse à dents. Donc tous les 3 mois, on vous envoie une brosse à dents.
Alors au départ, vous importiez des brosses à dents et là, depuis décembre, vous produisez vos propres brosses à dents au Plessis Grammoire.
C'est ça, en fait, il y a quasiment 7 ans maintenant, quand on a commencé à travailler sur le projet, l'idée première, ça a été de se dire, on veut essayer de trouver un partenaire en France pour essayer de travailler sur des produits et naturels et locaux. Finalement, quand on a commencé à regarder un petit peu ce qui existait en France, on s'est aperçu qu'il y avait un seul industriel qui fabriquait des brosses à dents en France et il travaillait principalement pour sa propre marque. Du coup, en regardant un petit peu autour, on s'est aperçu qu'en Europe, il y avait très peu d'industriels qui pouvaient proposer de la brosse à dents en naturel aussi. Donc on a commencé par travailler en Asie. On importait des brosses à dents en bambou, du coup, depuis l'Asie. Donc on avait résolu un petit peu le problème de la matière. On était passé sur du bambou plutôt que du plastique. Par contre, il restait encore les 10 000 km entre le lieu de production et nos bureaux. Donc on a commencé par vendre ce produit-là, ce qui nous a permis de développer notre réseau de magasins avec lequel on travaille toujours aujourd'hui. Il y a 2 ans et demi, on a réussi à trouver un partenaire européen. Donc on a travaillé en Suisse et puis on travaillait aussi en Italie sur une partie de nos gammes. Mais on avait envie d'aller un peu plus loin et on avait envie d'investir et de relocaliser finalement cette production de brosses à dents en France et du coup au Plessis Grammoire. Donc on a une machine qui est arrivée en fin d'année dernière et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir fabriquer jusqu'à 2 millions de brosses à dents à l'année. Donc en bois, en plastique. Alors l'idée, c'est de travailler plutôt du plastique recyclé ou plastique biosourcé. Et aussi des têtes interchangeables qui nous permettent de proposer des produits encore plus durables dans le temps, puisqu'on vient changer vraiment ce qui s'use dans une brosse à dents, c'est-à-dire la tête.
L'idée avec cet outil, c'est de produire des brosses à dents aussi pour d'autres marques.
C'est ça. On s'est aperçu aujourd'hui que le seul industriel qui était en France travaillait plutôt pour sa marque et pas forcément pour d'autres marques, ce qui nous a poussé finalement aujourd'hui à acheter une machine. Et ce qu'on avait envie de mettre en place, nous, c'est vraiment un outil de production pour nous, mais aussi pour d'autres. On s'aperçoit aujourd'hui que les marques de cosmétiques, puisque c'est principalement ces marques-là avec lesquelles on va travailler, ou les laboratoires, arrivent à produire de la cosmétique réellement en France. Mais dès qu'on parle d'accessoires, c'est toujours plus compliqué, parce qu'en fait, on se retourne principalement en Asie pour la brosse à dents. Il faut savoir qu'il y a 200 millions de brosses à dents qui sont vendues chaque année en France. Seulement 4% sont fabriquées en France. Donc il y a un delta qui est assez énorme. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer via cet outil de production une brosse à dents naturelle en bois, si l'on veut, ou à tête interchangeable, fabriquée réellement en France.
Alexis Godichaud, cofondateur de l'entreprise J'aime mes dents, qui vient de relocaliser en Anjou sa fabrique de brosse à dents en bois. Il répondait aux questions de Marion Bastide pour RCF Anjou. Dans le reste de l'actu, la région Pays de la Loire lance le Big Bang de l'emploi, une grande tournée régionale pour trouver sa voie et son emploi. Elle est prévue du 3 mars au 1er avril, elle commence donc le 3 mars depuis la ville d'Angers. Au programme, des battles métiers pour découvrir des métiers qui recrutent, des job dating au sommet d'une grande roue, des immersions à 360 degrés sous un dôme ou des expériences de réalité virtuelle à bord d'un Orientibus. On dénombre dans la région plus de 280 000 demandeurs d'emploi, alors que de nombreuses entreprises peinent à recruter avec plus de 248 000 offres d'emploi toujours à pourvoir. Quand la culture génère des emplois et des retombées financières, c'est pour les Pays de la Loire qui attirent de plus en plus le cinéma. 267 jours de tournage ont eu lieu l'an dernier, c'est 24% de plus qu'en 2021. Selon la région, les retombées ont représenté 8,9 millions d'euros en 2022. À la Flèche, en Sarthe, le commissaire enquêteur a rendu son avis concernant l'extension du zoo. Ce dernier se montre favorable au projet d'agrandissement de 4,7 hectares du parc animalier. Un avis justifié, je cite, par le fait que les objectifs du zoo coïncident avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la vallée du Loir et que les réalisations envisagées respectent les dispositions réglementaires du PLUI fléchois. Il est ajouté que le dossier montre une présentation claire, exhaustive des différents enjeux existants, des réalisations envisagées et des actions menées pour atténuer leur impact. Fin de citation.
L'hebdo-région, si on sortait.
Et on retrouve tout de suite Benoît Porcher de RCR Sarthe qui nous emmène aujourd'hui dans le sud Sarthe, plus précisément en vallée du Loir. Bonjour Benoît.
Bonjour Thomas.
Alors Benoît, vous nous présentez aujourd'hui une jeune et atypique association qui a cœur de défendre les bons produits de notre terroir.
Et oui, Thomas, il y a maintenant un an et demi, un groupe d'amis épicuriens s'est lancé le défi de mettre à l'honneur les bons produits et les producteurs du territoire de la vallée du Loir. Pour cela, ils ont monté une association appelée les Canotiers du Loir, en référence à ces chapeaux de paille ovales et à fond plat utilisés par les amateurs de canotage au début du 19e siècle. On écoute Tony Ladurie, le président de l'association.
Déplaçons auprès de différents commerçants, artisans, restaurateurs en tenue de canotier. Alors quand je dis canotier, donc on porte bien sûr le canotier, affublé bien sûr d'un polo avec le col mof bleu rouge, nœud de papillon bleu marine et tablier, bien sûr pour ne pas se tâcher, marqué du logo C des Canotiers du Loir. La tenue tout d'abord, c'est le petit côté Frenchy qu'on s'est donné dans notre belle vallée du Loir pour mettre en avant nos producteurs locaux. Je pense qu'il y a un besoin énorme de les mettre en avant, surtout à l'heure actuelle, soutenir bien sûr nos artisans et nos commerçants et faire découvrir ce qu'ils font et ce qu'ils sont aussi. Puis il y en a beaucoup sur notre territoire. Hein. Quand on dit vallée du Loir, ça part de Durtal jusqu'à Vendôme. Bon, on ne peut pas effectivement essuyer tout ce secteur-là, mais on se cantonne du côté sur la Charte sur le Loir, Montoire sur le Loir, le Lude, jusqu'aux portes du Grand Lucien, on va dire.
Alors Benoît, comment s'y prennent Tony Ladurie et ses compagnons pour mettre en avant ce patrimoine gustatif de la vallée du Loir ?
Tout simplement en utilisant YouTube et les réseaux sociaux, Thomas. Chaque mois, les canotiers du Loir postent une vidéo avec toujours le même objectif, Tony Ladurie.
C'est vraiment mettre en avant le bon vivre à la française localement. Alors ce que l'on fait, c'est effectivement, on met en place un planning. Je vois cette année, pour 2023, notre planning est rempli jusqu'au mois de septembre. Donc on contacte des restaurateurs, des producteurs. C'est un petit peu le lien. On voit un restaurateur qui travaille avec des producteurs locaux. Donc il nous propose une recette. Et de cette recette, après, on va visiter le producteur. Le dernier qu'on a en date, c'est un petit peu spécifique. On était dans une cave locale chez Régis Breton, entre autres, qui est producteur de genièvre et coteaux du Loir à la Chartre sur le Loir. Et ensuite, après, on a glissé vers une productrice d'huîtres qui vend ses huîtres sur le marché de la Charte. Et on a fait une recette autour des huîtres crues en y associant le vin à Régis Breton.
Et la recette plaît. Les vidéos des canotiers du Loir comptabilisent quelques milliers de vues sur Facebook notamment.
En moyenne, on a à peu près 5000 vues à chaque fois au bout de, je dirais, à peine une dizaine de jours. Partagé, je dirais, pas mal aussi sur les réseaux sociaux. On est assez reconnu aussi lorsqu'on se déplace, de par nos tenues, de par l'aura aussi que l'on apporte autour de ces vidéos. On met en place aussi des macarons qu'on applique un petit peu, genre Michelin, on va dire, chez ces fameux restaurateurs ou artisans. On met aussi en place, là, on va mis en place bientôt là des badges pour lesquels, effectivement, les gens pourront s'arborer fièrement pour défendre les couleurs de la vallée du Loir, de la gastronomie locale.
En plus des vidéos, Tony Ladurie et les canotiers du Loir souhaitent s'associer avec un restaurateur pour mettre en place la carte des canotiers et qu'ils serviront eux-mêmes dans le restaurant. Une manifestation autour de la bernache est aussi dans les projets de l'association.
Merci Benoît. Et puis on précise que pour suivre les aventures gourmandes de Tony et de ses compagnons de route, eh bien il suffit de taper les canotiers du Loir sur vos réseaux sociaux. Michel Bussy, Virginie Grimaldi, Bernard Werber ou encore Oxmo Puccino ou encore Aurélie Valogne seront au printemps du livre de Montaigu, le dernier week-end de mars en Vendée. Les organisateurs ont dévoilé lundi une première liste de noms. Cette édition 2023 sera présidée par l'écrivain et critique littéraire au Figaro, Étienne de Montetti. Voilà, c'est la fin de cette Hebdo Région des Pays de la Loire. Il vous était présenté par la rédaction de RCF Anjou, en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent week-end.